Ce soir, nous allons prendre un passage qui nous indique la plus longue prière, la plus grande prière plutôt, ce n'est pas dans la longueur, qui se trouve dans la parole de Dieu. Prenez avec moi Jean chapitre 17, Évangile de Jean chapitre 17. Donc, c'est la plus grande prière jamais priée. Les oreilles des hommes elles sont entendues. Et certaines prières peuvent mesurer par la longueur, mais la vraie prière se mesure au poids, disait Charles Spurgeon. Il a dit, ce n'est pas par la longueur de cette prière, mais se mesure au poids. Cette affirmation est vraie car la plus grande prière jamais priée est rapportée dans ce livre, dans cet évangile de Jean, chapitre 17. Il faut environ 6 minutes pour le lire respectueusement à haute voix. Il n'y a peut-être pas beaucoup de longueur, mais il y a certainement une grande profondeur et un grand poids. Bien qu'il y ait environ 650 prières enregistrées, alentour de 650 prières enregistrées dans la Bible. Il y a des petites prières, comme la prière de ce brigand sur la croix. Il a simplement dit, Seigneur, pense à moi quand tu seras au paradis. Et après, il y a des prières de Salomon et des autres prières, la prière d'Anne et des autres personnalités dans la parole. Et aucune prière ne peut non plus être enregistrée en dehors de la Bible. Qu'y a-t-il dans cette prière qui la rend si grande? Au moins quatre raisons peuvent être avancées. Jean 17, 1, nous apprenons que c'est grand à cause de la personne qui a offert la prière. La personne qui a offert cette prière, c'est à cause de lui qu'on dit que c'est une grande prière. Mais je suis sûr et certain qu'on a tous lu ce passage plusieurs fois. Mais imaginez, ce passage n'était pas enregistré par l'évangéliste Jean dans la Bible. On ne pourra pas savoir ce que le Seigneur il a pensé, ce qui s'est passé entre le Père et le Fils à ce moment crucial, parce que le Seigneur Jésus il était près de la très proche de la crucifixion, près de la mort. Et il avait le cœur lourd, et pourquoi il devrait prier de haute voix? Parce que souvent, ce que le Seigneur a prié, souvent ce n'est pas enregistré. Mais ce qu'on sait, qu'il s'est mis à l'écart pour prier. Hein? Il est parti dans la nuit pour être en communion avec son Père, pour prier. Mais jamais on trouve une longue prière comme celui-là qui est enregistrée. On peut savoir ce que le Seigneur il a dit à son Père, n'est-ce pas? Et c'est une grande bénédiction pour nous, pour savoir ce que le Seigneur il a dit. Mais heureusement pour nous, cette prière est enregistrée par l'évangéliste Jean. Et il a dit exactement ce que le Seigneur il a dit à son Père dans son prière. Et Jésus révèle dans cet évangile comme, par rapport à lui-même, celui qui était avec Dieu, au commencement. Il dit que j'étais au commencement. Okay? Et nous connaissons par l'évangile dans le premier chapitre de Jean, en nous lisant, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ, il était depuis le commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Il n'y a rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Hein? Ça, c'est plus tard, verset 14. Donc, nous savons que Jésus-Christ, il répète encore, il était avec Dieu depuis le commencement. Et il était pas seulement depuis le commencement, il était depuis le commencement avec Dieu. On voit sa nature, la nature trinitaire de Dieu, en trois personnes, Fils, Saint-Esprit et le Père. Donc, il était, depuis le commencement, il était avec Dieu, et celui qui était au commencement avec Dieu, et celui qui était le créateur de toutes choses, Jean 1, 3. Donc, c'est par lui que toutes choses étaient créées. Nous voyons, en Colossiens, c'est par lui et pour lui que toutes choses étaient créées, et toutes choses invisibles ou visibles. Et il était, on voit dans le verset 4 de Jean chapitre 1, il était la lumière des hommes. Il était la lumière des hommes. Celui qui s'est fait chair et habité parmi les hommes. Donc il était la lumière, tout le monde a vu. Ici, la prière, je pense que uniquement le 12 était là avec lui. Ce n'était pas la grande foule qui le suivait tout le temps. Donc, il a révélé lui-même. Jésus-Christ l'a révélé lui-même. Il s'est révélé lui-même. Donc, il était visible par tout le monde. Tout le monde a pu voir. Quand il était fatigué, tout le monde a vu. Quand il avait soif, tout le monde a vu. Quand il avait faim, tout le monde a vu. Donc, il était visible. Il était comme la lumière. Il n'était pas caché dans la ténèbre. Et Jésus proclame dans cet évangile comme la parole. Hein, il était la parole. L'agneau de Dieu, Jean 1, 29, nous lisons, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein, » Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus venir vers lui au bord du fleuve Jourdain, il dit que « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et après, on voit que c'était le Fils de Dieu. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage. Pardon. Il était le Fils de Dieu. Il était le roi d'Israël. Et en Jean, chapitre 1, 49, nous voyons, Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et il était le Messie promis. Et nous voyons avec la conversation avec la femme samaritaine, hein? Et elle dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Il a reconnu Christ, Jésus, comme le Christ, le Messie envoyé. Et Jean 6, 35, nous voyons qu'il était le pain de vie. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il est la lumière du monde, Jean 8, 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Et après, nous voyons dans le même évangile de Jean, c'est le grand je suis. Nous voyons le 7 je suis. Donc, il est le grand je suis. Il est le bon berger. Et Jean 10, il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et en Jean 11, quand il a ressuscité Lazare, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Donc la prière dans Jean 17 est grande parce que la plus grande personne de tout ce que nous avons vu, ce qu'il était, la plus grande personne qui ait jamais vécu, et celui qui l'a offert. Cette prière était offerte à Dieu par la plus grande personne qui a jamais vécu sur cette terre. C'est aussi génial à cause de la situation ou le contexte. Nous ne savons, mais peut-être les disciples ne savaient pas pourquoi ils disent tout cela. Parce que nous avons la parole de Dieu révélée, écrite. Mais les disciples, ils ne l'avaient pas. Donc, quand Jésus a pris le 12, il a pris à part. Et quand il a prié, et certainement les disciples n'ont pas compris, comme nous pouvons comprendre aujourd'hui ce chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Et vous savez, Armstrong, quand il a atterri sur la Lune, il a dit une phrase très populaire, très connue. Ce petit pas, c'est un grand pas pour l'humanité. Et c'est parce que Neil Armstrong, il était sur la Lune quand il a dit ça. Ça, il y a, il y a, il y a un poids pour ce qu'il a dit. Imaginons si nous, on met notre premier pas rue Villa de Jean Chrol. Même si on dit les choses comme ça, mais il n'y a rien. N'est-ce pas? Donc, c'est la situation ou le contexte donne le poids à ces mots. Parce que Jésus, il était devant sa mort. Il était devant sa mort. C'est pourquoi nous devrions étudier et toutes ces phrases, tous ces versets avec beaucoup d'attention. Après l'occasion entourant cette prière, remarquez ces premières paroles. Jésus dit dans Jean 17:1, « Père, l'heure est venue. » Et donc, quand il a dit de quelle heure s'agit-il? L'heure est venue. Mais si nous pouvons mettre nous-mêmes dans la place des disciples, on va certainement poser la question. Quelle est l'heure où il est en train de parler? Pourquoi il dit comme ça? L'heure est venue. Son rendez-vous avec la croix. Il parle de son rendez-vous avec la croix. Voici Jean 16, 31-32. Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et Jésus, il avait une communion très étroite avec son Père. C'est pourquoi il dit ça. Il avait une communion très étroite avec son Père. Un temps de séparation, de trahison, de souffrance et de la crucifixion. L'heure, quand il a dit que l'heure est venue, le temps de séparation, parce qu'il va quitter le monde, il va quitter ses disciples, et de trahison, nous savons que, bien que Judas il a trahi, mais des autres ils sont abandonnés. Pierre l'a renié, mais tous les autres disciples ils sont abandonnés. Il n'était pas là. Quand il était devant le Sanhédrin, devant Pilate, il n'était pas là. Et de souffrance et de la crucifixion, l'heure est venue. Un temps où le dessein éternel de Dieu est sur le point d'être réalisé. Est-ce que nous réalisons ce poids de cette situation? Quand Jésus quand il disait dans son prière, l'heure est venue, et c'était le moment où le Père et le Fils et le Saint-Esprit, tous les trois, ils attendaient pour cette heure. Le Père, il préparait d'offrir son Fils sur la croix. Et le Fils, depuis le temps de commencement, nous lisons dans la parole qu'il était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Depuis que la décision était faite, et il attendait pour cette heure. Vous savez, Jésus-Christ, il aurait pu mourir dans plusieurs occasions depuis sa naissance. Même avant sa naissance, il devrait mourir. C'est bizarre de dire, mais Satan, il voulait détruire cette la semence de femme. Je n'arrive pas à trouver le mot. Par la postérité de la femme. Oui. Donc, Satan, il voulait détruire. C'est pourquoi il voulait détruire Moïse. Satan, il voulait toujours détruire. Et quand Jésus, il dit ici, l'heure est venue, c'est l'heure quand il peut offrir son corps comme sacrifice. Un temps où le dessein éternel de Dieu est sur le point d'être réalisé. Un temps où Jésus est sur le point de porter les péchés du monde sur la croix. Imaginons l'être le plus saint qu'il était. Il devrait porter le péché du monde entier sur lui, sur la croix. Quand il dit « l'heure est venue », comment ça devrait peser cette phrase « l'heure est venue ». L'occasion, Jésus sait que sa crucifixion est imminente, donne beaucoup de poids aux paroles de sa prière. Tout ce qui préoccupait l'esprit de Jésus en ce moment doit être très important. La prière était également grande à cause de le contenu de la prière, cette prière traite de grands thèmes. Il nous ramène en arrière et avant le temps. Mais quand Jésus dit, donne-moi la gloire que j'avais quand j'étais avec toi. Et cette gloire, c'est, ça parle de même le temps à venir aussi. Et il parle en Jean 17, 5, verset 5. Quelqu'un peut lire ce verset, Jean 17, 5. Voilà. Donc, ce que Jésus demande, c'est il demande la gloire qu'il avait. Mais c'est ça qu'on lit en Philippiens chapitre 2. Il a mis à côté tout cela pour devenir pour prendre le serviteur de plus, la forme la plus ignoble de l'humanité. Il a mis à côté. Donc, maintenant, son prière se révèle ce que la gloire il avait. Peut-être en quelques occasions, le disciple a pu voir cette gloire de Dieu resplendir en lui. Quand il a sorti de l'eau après son baptême, ils ont vu la gloire de Dieu descendre sur lui. Et après, dans le monde de transfiguration, ils ont vu la gloire de Dieu. Seulement dans quelques occasions, et seulement pour quelques personnes. Mais des autres, pour des autres, il était maudit. Il était maudit. Et la gloire du Père et du Fils, il traite de la gloire du Père et du Fils, les deux. Et les disciples glorifiaient Dieu sur la terre. Jean 17, 10. Le Fils rend gloire à ses disciples. Les disciples contemplent la gloire du Fils. Enfin, il parle, après, il parle de l'amour. Hein. 17, 23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ici, il révèle l'amour. Le Père, il a pour son Fils, et le Fils, il a pour ses disciples et pour tous les croyants de tous les temps. Et ce que l'amour que nous devrions pratiquer envers les uns les autres. Et l'amour du Père pour les croyants. L'amour du Père pour Jésus, nous voyons dans le verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et après, on voit que Jésus, il demande dans sa prière au Père, il demande... Je pense qu'on devrait un peu penser notre prière aussi. Est-ce que notre prière toujours glorifie Dieu ou il y a quelque part notre gloire est cachée derrière nos mots ou derrière nos pensées? Et Jésus, il demande de grandes demandes, glorifie-moi. Est-ce qu'on peut demander Dieu de nous glorifier? Pourquoi nous devrions demander Dieu de nous glorifier? Mais quand Jésus demande « glorifie-moi », il demande la glorification du Père. Il demande la glorification du Père. Parce qu'ils sont un. Mais nous sommes tellement différents du Père. Nous ne reflétons pas notre vie, notre parole ne reflète pas l'image du Père. Nous ne reflétons pas l'image de Jésus. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas demander, Père, glorifie-nous. Mais normalement, nous devrions demander comme Jésus l'a demandé. Hein? Dans les autres façons, on peut mettre, Seigneur, sanctifie-moi, puisque le monde, il peut me voir, ma vie, et il peut voir Jésus-Christ en moi. Pas, le monde ne devrait pas me voir, mais il devrait voir Jésus-Christ en moi. L'image de Fils en moi. Et vous connaissez la parole, hein? Que votre lumière brille d'une façon que les gens du monde, ils vous voient, ils glorifient le Père qui est aux cieux. Mais le monde n'a jamais vu le Père, n'est-ce pas? mais ils ont vu le Fils. Ils ont vu le Fils Jésus-Christ. Et quand ils demandent « glorifie-moi », ils demandent la gloire du Père. Ils demandent que le Père soit glorifié en lui, par sa vie. Mais certainement, quand il dit que « glorifie-moi », on devrait penser à ce verset, « quand le Fils sera élevé hein, ». Comme le serpent d'airain, il était élevé dans le désert par Moïse, le Fils aussi sera élevé. Mais élevé pas, comment? Mais nous, quand nous voulons être élevés, peut-être nous avons un peu de syndrome de Haman dans le livre de Ruth. Hein? Lui, il voulait être élevé, mais finalement, ce n'est pas ça. Mais quand Jésus l'a demandé, glorifie-moi, il a pensé à la croix. Mais la meilleure façon d'être glorifié pour nous, c'est être crucifié avec Christ. La mort de cet ancien homme qui vit en moi. Mais Christ l'a prié, glorifie-moi. Jean 17, 1 à 5. Et après, dans le verset 6 à 12, il demande, garde-les. Hein, il demande que, il confie ses disciples, il confie tous les croyants dans la main du Père. Il demande, garde-les. Comme j'avais gardé quand j'étais sur la terre, il a gardé. Il a gardé. Il a gardé comme le bon berger, il garde ses brebis. Donc il dit la même chose. Il dit, maintenant Père, je vais partir, mais je confie à toi, garde-les. Et après les versets 13 à 19, il demande, sanctifie-les. Mais je ne sais pas combien d'entre nous, on a le courage de demander, Seigneur, sanctifie-moi. Mais vous savez, c'est quand on demande, Seigneur, sanctifie, on ne devrait pas avoir peur que le Seigneur, il nous émonde, oui. C'est ça, ça veut dire, prends le ciseau, et sanctifie-moi. Sinon, Seigneur, je suis prêt à partir dans la fournaise, sanctifie-moi. Mais il n'y a pas de sanctification sans ces choses. Mais nous devrions demander, Seigneur, sanctifie-nous. Hein? Seigneur, il a demandé, le Seigneur Jésus, il a demandé dans son prière à son Père, sanctifie-les. Sanctifie-les. Souvent, oui, c'est vrai, sanctification, c'est la séparation. Nous pensons que nous sommes séparés du monde. On est sanctifié. Oui, c'est vrai, dans une façon. Mais dans un autre sens, la sanctification, c'est un processus qui continue dans la vie chrétienne. Qui continue. Donc, nous devrions désirer une vie de sanctification dans la vie à chacun. Donc, nous devrions désirer cette sanctification. Et après, il demande pour qu'ils soient tous un. Mais il était 12, hein. Et chacun, il était tellement différent, comme nous sommes différents. On est tellement différents. Montrez-moi à une personne qui me ressemble, parce que je suis pire. Et on est tous différents. Mais ce que le Seigneur demande, il ne demande pas une uniformité, que tout devrait ressembler la même. Non, ce n'est pas ça. Mais on est tous divers, on a une diversification. On vient de différents continents, on parle de différentes langues. Apparemment, une personne qui a mis un commentaire, on m'a dit cette semaine que cette église c'est très communautaire. Ça m'a fait mal de penser comme ça. Mais on n'est pas une église ethnique. Nous ne sommes pas une église ethnique. Mais c'est vrai, il y a des communautés, mais on ne peut pas effacer les communautés. Mais je ne pense pas qu'on est communautaire. Je ne pense pas que. On essaye d'être unis avec le même esprit, de travailler ensemble pour mieux en mieux. Peut-être qu'on a des défauts, mais on travaille pour effacer toutes ces choses, pour avancer avec le Seigneur. Mais non, quand je dis une personne qui a dit, il a mis un commentaire sur le site de l'Église, je crois. Donc, le Seigneur demande pour qu'ils soient tous un. Comme nous sommes un. Le Père et le Fils, ils sont une communion étroite et ils sont un. Ils sont un. On ne peut même pas parler d'une communion. Hein. Ils sont un. Ils sont un. Et nous devrions... Et c'est ça la prière du Seigneur pour, avant son départ, pour être crucifié. Il a demandé pour qu'ils soient tous un. Et enfin, il dit dans le verset 24 à 26, « Afin qu'ils voient ma gloire. » Si on fait toutes ces choses, on peut voir la gloire de Jésus-Christ. On peut voir le, on n'a pas le temps pour lire le passage. Jésus, il dit « Afin qu'ils voient ma gloire. » Et quand des serviteurs de Dieu, ils sont dit « Seigneur, montre-moi, révèle-toi à moi. Hein? » Moïse il a fait ses prières. Mais ils ont vu la gloire de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, on a contemplé la gloire de Dieu en lui. On a contemplé la gloire de Dieu en lui. Et ici, Jésus-Christ, c'est notre frère aîné, et nous sommes ses frères et sœurs, et nous devrions aussi refléter la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Nous devrions aussi refléter la gloire de Dieu. Afin qu'il voie ma gloire. Donc, cette prière, on peut diviser en trois parties majeures. Et premièrement, versets 1 à 5, Jésus prie pour lui-même. Il prie pour lui-même. Et deuxièmement, de versets 6 à 19, Jésus prie pour ses disciples, pour ses apôtres. Et versets 20 à 26, il prie pour tous les croyants. Il prie pour tous les croyants. Même un bref examen de son contenu révèle la grandeur de cette prière et pourquoi elle mérite une étude attentive. On a souvent, quand on parle de la prière du Seigneur, on pense à notre Père. Oui, c'est une prière modèle que le Seigneur nous a donnée. Comment nous devrions composer notre prière? Ce n'est pas la répétition de même chose, la même parole, bien que les paroles sont tellement belles. Belles. Ce n'est pas le Seigneur ne veut pas qu'on répète, mais c'est un modèle. Comment nous devrions composer notre prière et comment nous devrions mettre le Seigneur premièrement, après mettre nos besoins dans la façon secondaire. Et on voit la victoire révélée dans cette prière aussi. La préoccupation de Jésus est évidente, relative au monde utilisé 19 fois. Le mot monde est utilisé 19 fois. Et à l'effet qu'il peut avoir sur les croyants, une préoccupation justifiée quand nous vivons dans le monde qui est trompé, aveuglé par Satan. Et Seigneur, il dit que je les laisse dans le monde. Je laisse mes disciples dans le monde. Et bien que lui-même, il a vécu dans le monde. Il a jamais séparé. Vous savez, il y a des saints, entre guillemets, dans le monde, qui veulent quitter la société, la communauté. Ils vont aller vivre dans les jungles, dans les montagnes, et souvent dans le pays d'où je viens. Moi, j'ai vu des yogis, des sadhus, les gurus qui vivent sans aucun contact humain. Comme ça, ils ne vont pas pécher. Ce n'est pas vrai. Le péché habite dans le cœur. Ce n'est pas chez mon prochain, dans le cœur de mon prochain. Et donc, le monde est aveuglé par Satan. Le monde est dangereux. Et le monde est souillé. Vous savez, et le monde est divisé aussi. Mais souvent, quand le Seigneur, il dit que je les laisse dans le monde. Le Seigneur, Jésus, il n'a pas dit que, Seigneur, bientôt je vais venir chez toi, avec toi. Prends mes disciples aussi. Mais si les disciples sont partis avec Jésus-Christ, nous ne serions pas là ici ce soir. La parole de Dieu, il n'y a pas de chance que la parole de Dieu soit répandue dans le monde comme c'est fait aujourd'hui. Et si nous sommes encore dans ce monde, nous avons une mission de parler de Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Et je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez vu la plante, le nénuphar, le lotus ou le nénuphar. Si vous voyez cette plante, elle pousse dans le marais souvent. Il y a le boue dans la profondeur d'eau, après l'eau. Mais le fleur, toujours, il flotte sur la surface d'eau. Le fleur, il n'est jamais dans la profondeur. Les racines sont dans la profondeur. Mais la plante, avec le feuille, il flotte sur le lac ou sur l'étang. Vous pouvez voir cela. Et bien que c'est sale, quand je dis sale, c'est la terre, et ce que vous comprenez, hein? Bien que ce soit sale, mais vous ne pouvez pas voir la saleté sur la fleur. Il y a une pureté parfaite. La fleur, il est propre, il est pur. Et bien que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Et nous savons que pour qui, à qui nous devrions plaire, à qui nous devrions donner gloire. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'un chrétien devrait marcher avec ses pieds sur la terre, mais sa tête sur les cieux. On est un peu comme ça. Nous sommes bien plantés sur le monde, mais nous avons notre tête dans les cieux. Nous regardons en haut. Nous ne regardons pas ici ce qui se passe ici. Et pourtant, Jésus a vaincu le monde. Le monde, elle est telle qu'elle est, mais Jésus, il a vaincu le monde. Il a dit que j'ai vaincu le monde. Comme il a dit à ses apôtres avant cette prière, 16, 33. Dans cette prière, la victoire de Jésus se révèle. Le monde peut être trompé, mais Jésus nous a montré la réalité en révélant le seul vrai Dieu. Le monde, il est dangereux, mais Jésus nous assure comme nous sommes gardés au nom de Dieu. Et le monde, il est souillé, mais Jésus assure la sanctification par la parole de Dieu. Et le monde peut être divisé, mais Jésus offre l'unité par sa gloire. Il offre l'unité en lui et avec ses enfants. Ces quatre raisons nous aident à comprendre pourquoi la prière de Jésus dans Jean 17 a été appelée la plus grande prière jamais priée. La prière, on appelle la prière d'intercession, on appelle la prière sacerdotale, et la prière de notre Père, ce n'est pas seulement enseigné par Jésus dans Matthieu 6 et Luc 11, c'est la prière du Seigneur. C'est lui-même, il a prononcé ces paroles. C'est en effet une grande prière, mais c'est une prière en faveur de ceux qui sont les disciples de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas un disciple, la prière de Jésus est que vous deveniez d'abord un disciple. Alors, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour que la plus grande prière jamais priée s'accomplisse dans nos vies.